Vous écoutez Bac FM, il est 18h30 et sur Bac FM tous les lundis de ce mois d'octobre, eh bien nous vous proposons une émission consacrée à la prévention du cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose. Et pour cette deuxième émission, nous allons recevoir Cyril Rich. Il est infirmier au centre de coordination en cancérologie. Mais juste avant, je suis parti à la rencontre du docteur Roche-Lachaise. Bonjour, docteur Roche-Lachaise. On évoque Octobre Rose, bien sûr, le cancer du sein toute cette semaine. Je profite de vous avoir pour comprendre plus concrètement, en fait, comment se développe déjà un cancer du sein.
Alors, le cancer du sein, ce sont la formation de cellules cancéreuses à partir du tissu mammaire, en sachant qu'il y a plusieurs types de cancers. Hein. Il y a les carcinomes lobulaires et canalaires. Donc, c'est des carcinomes lobulaires ou canalaires in situ qui sont plutôt localisés. Et on a des infiltrants qui sont plus importants et un peu plus graves, on va dire, parce qu'ils peuvent être localisés, mais ils peuvent être aussi métastatiques, voilà. De même type canalaire et lobulaire. Donc ça, c'est les deux principaux types de cancers.
Alors là, c'est des termes très, très techniques.
Très
quand une personne vient vous voir, qu'elle est atteinte d'un cancer, que vous lui annoncez, vous employez ces termes-là, vous essayez
alors,
de les rendre plus
non.
concrets aussi,
on
plus familiers.
On leur parle de leur cancer quand on a un diagnostic de cancer à annoncer. Ce qui va surtout être important, c'est pour le traitement. En fait, il y a plusieurs types de cancers du sein. Une personne X n'a pas le même cancer du sein qu'une personne Y. C'est souvent, quelquefois même, que les gens me disent « mais je ne comprends pas, ma voisine a un cancer du sein, elle n'a pas le même traitement que moi ». Non, c'est normal.
Le cancer est toujours différent, selon la personne.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, dans le cancer du sein, donc, il y a les lobulaires, les canalaires, il y a les in situ qui sont très localisés et les autres qui sont infiltrants. Et dans chaque cancer, on a des cancers qui sont sensibles aux hormones, aux récepteurs hormonaux. Des cancers qui sont sensibles, qui ont un marqueur qui s'appelle l'HER2 qui est positif, et les traitements en fait vont dépendre de ces marqueurs. Le moins fréquent mais qui est le plus embêtant, c'est le triple négatif. Ce sont des cancers qui n'expriment pas les récepteurs hormonaux et qui n'expriment pas le marqueur HER2.
Ce sont les plus difficiles à guérir ?
Oui, actuellement oui. On ne peut pas utiliser d'hormonothérapie, on ne pourra pas utiliser... le traitement anti-HER2, donc du coup, c'est ça. Ils sont plus compliqués à traiter, mais actuellement, on a fait pas mal de progrès avec l'immunothérapie notamment.
Oui, on va évoquer bien sûr la recherche qui continue chaque jour pour justement de nouvelles manières aussi de guérir, de nouveaux traitements qui sont peut-être moins lourds. On va voir ça ensemble. Quand vous annoncez à une personne qu'elle est atteinte d'un cancer et notamment le négatif le plus compliqué, comme vous venez de le dire.
C'est pas moi qui l'annonce parce que moi je suis pas oncologue. Moi je suis médecin responsable de l'hôpital de jour, donc je fais la chimiothérapie. Et la plupart du temps, ce sont des gens qu'on récupère de Clermont-Ferrand ou de Dijon.
Donc c'est jamais vous qui annoncez en fait.
Donc j'annonce jamais le diagnostic de cancer du sein.
Mais l'échange, il est important quand même avec,
oui,
avec ces
bien
personnes.
Sûr. Oui, ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que comme les gens vont regarder sur Internet, ils ne sont pas non plus fous, et donc ils regardent. Et
c'est voilà. Pas forcément la meilleure chose des fois d'ailleurs.
Non, c'est pas la meilleure chose. Et c'est vrai que si on regarde Internet, et ben, on vous dit que quand même le cancer du sein triple négatif, c'est pas le meilleur, que le risque de rechute à 2 ans, il est important.
C'est pour ça qu'il faut se dépister.
Voilà.
C'est le plus important.
C'est le plus important, voilà. Actuellement, donc, le dépistage par la mammographie et l'échographie mammaire. Bah, les bénéfices du dépistage, évidemment, c'est la détection précoce, parce que plus on détectera un cancer, plus ce sera facile de le traiter.
C'est le premier pas vers la guérison, vers la prévention, mais en fait, tout simplement la guérison, en fait.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la détection précoce. On a également la réduction de la mortalité, puisque en l'identifiant plus tôt, on prend en charge les patients, donc il sera moins développé. Les traitements seront moins agressifs. Plus vous découvrez un cancer tôt, plus il sera pris en charge. Moins les traitements sont lourds. Un traitement qui restera localisé, qui ne sera pas métastatique, sera bien plus facile à traiter, j'allais dire, parce qu'en fait, là, il y aura une amélioration de la qualité de vie du patient. Il sera moins touché dès qu'il y a des métastases. C'est vrai que on passe sur un autre versant.
À quel âge il faut commencer à se faire dépister ?
Alors théoriquement, le dépistage, c'est tous les 2 ans, à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, sauf si vous avez des antécédents dans la famille de cancer du sein. Et puis alors, ce dépistage, il permet aussi une sensibilisation. Et puis ça permet un suivi régulier. C'est-à-dire que les femmes, après, une fois qu'elles ont leur dépistage, eh ben, ça leur permet une surveillance continue et une intervention rapide s'il y avait une anomalie.
Quelle tranche d'âge est la plus touchée par le cancer du sein ?
Alors, la tranche d'âge la plus touchée, c'est autour de 60 ans, avec un gros pourcentage de 50% entre 50 et 69 ans. On a 10% de moins de 35 ans, c'est pas énorme, et 20% entre 35 et 50 ans, et à peu près 20% après 69 ans. Une fois que les gens sont dépistés, une fois qu'ils ont été traités, ils sont quand même relativement bien suivis, donc ça peut prévenir les récidives très très tôt. Après, on a toujours des cas où les gens sont... Vous savez, on est dans la Nièvre, désert médical. Y a beaucoup de gens qui ne font pas se faire dépister. Et je ne dis pas souvent, mais on retrouve des gens métastatiques qui sont hospitalisés par leur métastase. D'accord. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont arriver avec des douleurs lombaires très importantes, des sciatiques, enfin des douleurs lombaires très importantes. On va retrouver des métastases osseuses et quand on fait le bilan d'extension, on retrouve un cancer du sein. Il y a encore des cas comme ça. J'ai connu, parce que ça fait très longtemps que je suis à Nevers, des cancers du sein avec des seins vraiment très très abîmés localement. Mmh. Vraiment abîmés, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de seins et tout. Et maintenant, je trouve que depuis, on va dire, 10 ans, on voit plus ça.
Dans l'exemple que vous avez cité avant, la guérison, là, elle était très, très, très compliquée, voire quasi impossible.
Oui, quand le sein est abîmé comme il est, c'est compliqué. Il y a des soins locaux, mais ça ne fait pas tout, quoi.
Ouais,
mais par contre, quand ils sont métastatiques, on arrive maintenant à faire des choses, à mettre les gens en rémission. On ne parle pas de guérison, mais on parle de rémission. Et une rémission qui peut être plus ou moins longue. J'ai actuellement une patiente qui est métastatique. Et qui est à... On est à 6 ans.
D'accord.
Avec ses métastases. Hein.
Oui, bien sûr.
Au
ouais.
stade de métastase. Hein. Et on est... ça fait même plus longtemps, parce que l'autre jour, je me suis dit, oh là là, ça fait si longtemps qu'on se connaît. Je crois que ça va faire 10 ans.
D'accord.
Et elle est toujours en traitement, par contre. Mais elle va bien.
La guérison, elle passe aussi par l'entourage.
Oui.
C'est important.
Très important.
D'être bien entouré.
Oui. Ouais. Donc, on a, alors, au sein de la Ligue, on a de l'écoute. Hein. On a des gens qui peuvent... On a une psychologue. À l'hôpital, on a une psychologue aussi. Et oui, c'est très important. Et dans l'accompagnement, je dirais même, j'ajouterais même l'activité physique et adaptée qui aide aussi les personnes atteintes d'un cancer du sein à se remettre un peu.
Parce que c'est aussi un échappatoire.
Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est super important. On ne leur demande pas de faire un marathon. Hein. On leur demande juste de participer de faire de l'activité physique. Donc, alors, je fais partie de la Ligue. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Je suis la présidente de la Ligue. Et,
vous soutenez donc tout ce qui est marche rose, toutes ces choses-là.
Voilà,
bien sûr.
On a le ciel bleu qui est que la Ligue paye, d'ailleurs. Ciel bleu, la Ligue participe. Donc, pendant et après cancer. On a aussi l'escrime. C'est bien, je trouve. Enfin, on a des choses, on fait des choses. Et c'est pas assez connu du public. Alors peut-être parce qu'on est dans une petite structure, un petit département. Mais je pense que dans les grandes villes, c'est quelque chose qui se fait bien.
C'est un pourcentage important de la guérison, la pratique du sport.
Ça joue beaucoup dans le traitement. Je pense que ça joue dans le traitement. Déjà sur le moral. Vous êtes pas chez vous, enfermé. Enfin voilà, ça vous fait.
Vous savez qu'une personne qui arrive, qui est, on va le dire, au bout du rouleau, aura une guérison plus difficile que quelqu'un qui va toujours essayer de relativiser, de positiver sur même son sort, quoi, malgré tout.
J'ai souvenir, quand j'ai fait mes études de médecine, en quatrième année, j'étais au centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand. Ça m'avait vraiment frappée. J'avais deux femmes qui avaient un cancer du sein et l'autre un cancer de l'ovaire.
D'accord.
Celle qui avait le cancer de l'ovaire était pessimiste au possible. Et celle qui avait un cancer du sein, on venait de lui enlever son deuxième sein.
Elle avait soif de vivre et de revanche, bien sûr.
Et celle qui avait un cancer de l'ovaire est décédée très rapidement. Et je suis sûre que le moral joue là-dedans. Je pense qu'il y a une partie de morale, d'activité. Enfin, vraiment, je suis persuadée que quelqu'un qui a bon moral va s'en sortir un peu plus que celle qui a mauvais moral. Et quelqu'un qui fera une activité, qui sortira, qui fera des choses. La première chose que... Alors, je fais beaucoup d'hémato, et en hémato, je leur dis tout de suite, surtout, vous ne restez pas sur votre canapé, quoi. Vous vivez normalement.
Ouais, ouais.
C'est sûr qu'il y a des hauts et il y a des bas.
Refuser son sort et continuer de vivre, voire plus.
Continuer de vivre normalement. Si vous aviez des projets, continuez de faire vos projets. Si vous avez prévu de partir, partez. Nous, on s'adaptera. Après, le traitement, il peut s'adapter. On n'est pas non plus à deux jours près. C'est pas non plus...
Ouais, ouais.
Mais c'est, moi, je pense que c'est important et que ça fait partie de la guérison. En tous les cas, de la rémission.
Oui, bien sûr.
Plus de rémission que de guérison.
J'aimerais qu'on termine sur une note joyeuse. Et le taux de guérison, justement,
à l'heure actuelle. Actuellement, le taux de survie à 5 ans, il est à 80, près de 90%.
D'accord.
C'est pas mal.
Ouais. Ouais.
C'est pas mal. On a fait pas mal de progrès. Mais il y a des progrès encore à faire. Et puis, c'est vrai que pour le cancer du sein, on a mis beaucoup d'argent dans la recherche. Et puis, c'est très important. Et donc, l'immunothérapie fait partie de cette recherche. On a également des nouveaux des biomarqueurs. Et puis, on a surtout des nouvelles molécules. Par exemple, les mutations BRCA1 et BRCA2 qui sont importantes. Et quand les gens sont mutés, ça permet d'avoir un traitement complémentaire en entretien. Donc ça, c'est super important. Et je pense qu'il y a d'autres progrès qui vont se faire.
Pour toutes les personnes qui ont plein de questions, qui n'ont pas forcément le temps ou envie d'aller voir des professionnels ou d'en parler, quel endroit sur Internet vous leur conseilleriez d'aller voir? Quel site Internet vous leur conseilleriez?
Le site de l'INCa.
D'accord. INCa.
C'est le site de l'Institut cancérologie.
Merci beaucoup.
De rien.
Et pour compléter les propos du docteur Roche-Lachaise, eh bien, je reçois Cyril Rich, il est infirmier au centre de coordination en cancérologie. Bonjour Cyril Rich.
Bonjour.
Vous êtes infirmier au centre de coordination en cancérologie à Nevers, à l'hôpital de Nevers. Merci d'être mon invité. On va vous entendre à l'occasion donc, de ce mois Octobre Rose, au même titre que le docteur Roche-Lachaise, qui était mon invité aussi, qui va venir compléter ce propos, finalement, sur le cancer du sein. Merci d'être mon invité. Est-ce que vous voulez déjà compléter, peut-être, votre statut?
Ouais, je complète un petit peu, effectivement. Donc, bonjour. Je suis Cyril Rich, infirmier au centre de coordination cancérologie, qui est un centre de coordination qui est partagé entre l'hôpital, la polyclinique du Val-de-Loire et le centre de radiothérapie. Donc, c'est une unité qui rassemble les trois structures. Mais, effectivement, moi, je appartiens à l'effectif de l'hôpital. Et mon 50% autre que celui du 3C, c'est celui à l'hôpital de jour du Pola, où effectivement nous prenons en charge les traitements des personnes atteintes de maladies cancéreuses.
Avant de revenir concrètement sur le cancer du sein, cette importance d'Octobre Rose, elle se déploie sur le département en globalité, mais à l'hôpital encore plus, il y a un accent avec Octobre Rose.
Tous les ans, nous essayons effectivement de remettre un peu plus l'action sur la sensibilisation au dépistage. Et tous les ans, nous essayons de mettre en place une journée de sensibilisation bien plus importante que le reste du mois. Cette journée de sensibilisation aura lieu le 15 octobre chez nous à l'hôpital, avec des stands qui vont nous permettre d'accentuer justement ce côté sensibilisation au dépistage.
Avec des partenaires, des intervenants, j'imagine, des associations peut-être aussi.
Des partenaires, donc depuis la Covid, nous avons un peu réduit la voilure de tous les partenaires qui venaient nous aider dans cette journée de sensibilisation. Cette année, nous aurons la Ligue contre le cancer qui sera là, qui sera en charge aussi de vendre des roses. Et puis, nous avons une section d'esthéticienne, pardon, qui viendra du lycée professionnel de Saint-Léger-des-Vignes, qui va proposer des ateliers de modelage des mains, entre autres.
Alors, ce sera l'occasion, j'imagine, cette journée d'évoquer le cancer du sein peut-être plus concrètement aussi, parce que c'est ça qui est important dans la prévention, c'est d'expliquer finalement comment ça se passe, et c'est ce qu'on va faire ensemble à l'image de ce qu'on a fait déjà précédemment avec le docteur Roche-Lachaise, que je remercie déjà d'avoir répondu aussi à mes questions. Première question, Octobre Rose, c'est un mois qui met la prévention bien sûr en avant et surtout l'importance du dépistage. Est-ce que justement le dépistage c'est le premier pas vers la prévention et vers la guérison aussi?
Alors, le dépistage sera peut-être pas le premier pas vers la prévention, parce que justement, la prévention reste en amont, toujours en amont et en parallèle. Mais le dépistage, effectivement, permettra normalement de prendre en charge les cancers plus tôt. Et qui dit plus tôt dit des choix thérapeutiques plus grands, oui, forcément.
Une guérison plus douce.
Soit une guérison plus douce avec des traitements moins agressifs, effectivement, soit plus de panels justement pour pouvoir intervenir plus rapidement et d'avoir plus le choix dans les traitements, parce que forcément, plus on va attendre, plus malheureusement la maladie risque de se développer et de s'installer et devenir métastatique. C'est-à-dire d'être sur d'autres sites que le point de départ, et ce qui fait que là, forcément, les traitements vont devenir de plus en plus lourds.
Justement, pour les personnes qui nous écoutent, on va continuer un petit peu sur cet aspect de dépistage. À quel âge il faut commencer à se faire dépister ?
Alors, le dépistage organisé, en fait, il a lieu de 50 ans à 72 ans, tous les deux ans, en fait. Hein, à fréquence de tous les deux ans, c'est ce qu'on appelle le dépistage organisé. Donc, c'est à l'échelon national. C'est une invitation qui est reçue par les femmes dès l'âge de 50 ans à passer, justement, un examen de mammographie qui sera lu par deux radiologues différents.
D'accord.
Ce qu'on appelle la double lecture. Et c'est cette différence qui fait que... cette différence par rapport au dépistage personnel, on va dire, qui sera vraiment défini par un médecin, soit gynéco, soit un médecin généraliste, pour une personne qui aura des risques plus particuliers. Le dépistage organisé, lui, il est un petit peu... il y va à l'aveugle. Il invite les gens à faire le dépistage, la mammographie, tous les deux ans, avec donc ce principe de double lecture des radiologues.
Cette double lecture, qu'est-ce qu'elle permet ? C'est d'avoir une vérification plus sûre, tout simplement ?
Et oui, tout simplement, d'avoir deux avis à confronter, éventuellement, et puis éviter, effectivement, les faux positifs ou les faux négatifs, tout simplement. Après, effectivement, il arrive toujours qu'il y ait des faux positifs ou des faux négatifs, avec ce principe de double lecture par des radiologues, deux radiologues différents, qui plus est, deux radiologues différents de la ville. Hein, c'est pas si, par exemple, une femme va passer va faire une mammographie à Nevers, le premier radiologue qui va faire la radiographie va dire, et après les clichés seront envoyés. Si je me trompe pas, pour nous, ça va être du côté de Montluçon,
d'accord,
qui sera vu par un autre radiologue à Montluçon, et à l'inverse, Nevers devrait recevoir ceux de Moulins.
D'accord, ok. D'accord.
C'est voilà, c'est quelque chose qui tourne sur une certaine échelle organisée au départ par les centres de dépistage. Et effectivement, voilà, ça évite ça limite le risque de faux positifs ou faux négatifs.
Est-ce qu'on remarque qu'il y a une tranche d'âge qui est plus touchée par le cancer du sein qu'une autre ?
Globalement, un peu plus les 60 ans. 60 ans, mais il faut...
C'est ce qui explique du coup ce dépistage à partir de cet âge-là, en fait.
Ouais, tout simplement. En fait, les autorités se sont servies des statistiques, hein, tout simplement, et on définit une courbe de Gauss qui permet de voir où il faut idéalement placer la population à dépister. Depuis quelques années, on s'aperçoit quand même que l'âge se déplace de plus en plus vers les 45 ans, et il est pour l'instant encore un peu étudié le fait de déplacer cet âge de début de dépistage.
D'accord, parce qu'on remarque qu'il y a une évolution dans la tranche d'âge touchée. Tranche aussi géographique, on sait que des fois il y a des dépistages qui sont un petit peu moins dans des régions recluées, un petit peu, je pense au Morvan par exemple, vers chez nous, c'est plus compliqué.
C'est toujours plus compliqué parce qu'il faut, trouver un cabinet de radiologie qui le fasse, forcément, donc du coup, voilà, c'est le dépistage, il est compliqué, et d'une, par ce côté organisationnel, mais aussi parfois et malheureusement par les gens qui se disent c'est pas la peine, moi j'ai rien, et donc forcément le dépistage forcément ne se fait pas, et malheureusement des fois les gens arrivent un petit peu trop tard.
Ouais, d'où l'importance de choses qui sont mises en place. Je pense au centre de dépistage de Moulins par exemple, qui avait mis un camion mobile de dépistage pour pouvoir permettre à des personnes qui ne peuvent pas forcément se rendre dans un centre de dépistage de pouvoir
effectivement ce sont des choses des initiatives qui se mettent en place, et puis pour essayer de pallier un petit peu justement à cette désertification médicale qui se fait sur tous les échelons, hein, que ce soit du médecin généraliste au chirurgien, mais aussi par les radiologues aussi, et donc forcément ça devient de plus en plus compliqué. Il faut trouver des solutions alternatives, et ces solutions alternatives effectivement sont toujours à regarder avec bienveillance.
Il y a un terme que j'aimerais qu'on évoque aussi ensemble, c'est le terme de surdiagnostic. On le voit beaucoup passer dans des flyers, dans des choses qui sont mises en avant à l'occasion d'Octobre Rose, mais on ne comprend pas forcément ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire, le surdiagnostic ?
Le surdiagnostic, en fait, ça va être tout simplement d'identifier la présence d'un cancer, et qui malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, qui aurait un tel développement, un développement de très très lent, et de ce fait de développement très lent, en fait, il ne nécessite pas particulièrement de traitement. La personne, parfois, va peut-être décéder d'autre chose, et sans que son cancer soit encore manifesté ou manifestable. Et du fait du dépistage organisé, forcément, il arrive des fois où des cancers sont aussi détectés, ce qui est normal, hein, c'est le but du jeu, quelque part. Et ça provoque un stress à la personne, parce qu'elle se dit, il y a un cancer et on ne fait rien. Et effectivement, c'est l'intérêt aussi, déjà, de... ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaires, les médecins vont voir ensemble, ils vont discuter d'un dossier et ils vont dire, bon, effectivement, là, on est sur quelque chose qui ne va pas se développer très vite, on va laisser la personne tranquille pour l'instant, éventuellement, on va augmenter un petit peu la surveillance, les mammographies, au lieu de les faire tous les deux ans, on va les faire tous les ans, mais sans inquiétude particulière. Après, le médecin a lui à charge, et ça c'est pas toujours facile, de faire comprendre et de rassurer la personne et de lui dire, voilà, il se passera rien pour l'instant, ne vous inquiétez pas, on vous garde à l'œil, mais vous vivez normalement. Et c'est l'inconvénient, voilà, c'est ça, c'est ça. Le plus gros risque du surdiagnostic, c'est de provoquer finalement une inquiétude, voire pouvoir aller jusqu'à, pourquoi pas, une dépression, liée à cette connaissance du fait qu'on a
potentiellement
un cancer, mais qu'il ne se passe rien, et ça, c'est toujours compliqué à entendre.
C'est là où le dialogue est très important, de la part du médecin et de l'entourage aussi, mais on va y venir justement à l'importance de cet entourage.
Et là, c'est l'importance du médecin, effectivement, et l'importance de l'entourage, et aussi l'importance que le médecin a aussi à rassurer l'entourage,
parce que
l'entourage, il peut être effectivement un appui bénéfique dans le bon sens du terme, mais malheureusement aussi, de par son inquiétude, et qui est tout à fait entendable, de par son inquiétude, il peut aussi provoquer un stress à la personne.
Il y a un côté psychologique qui rentre en jeu finalement
toujours,
à ce moment-là.
Toujours, c'est toujours l'inconvénient du surdiagnostic, effectivement, et après, que ce soit le surdiagnostic ou que ce soit à partir du moment du diagnostic et du traitement qui en découle, l'entourage est très 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 important, parce qu'il faut bien le prendre en compte, il peut être aussi atteint finalement par la maladie. C'est ce qu'on dit régulièrement, la maladie affecte la personne, mais elle affecte aussi l'entourage, et du coup c'est l'entourage qui peut être aidant, mais aussi l'entourage qui doit être aidé.
Comment on guérit du cancer du sein?
Et idéalement ça va commencer par la chirurgie. Et ensuite, d'autres traitements peuvent être mis en place. Si la chirurgie n'est pas suffisante, on a les traitements par chimiothérapie, par radiothérapie, et puis les traitements par immunothérapie, qui se développent de plus en plus, et qui sont de plus en plus efficaces. On arrive aussi par croiser tous ces traitements, chimio, et puis radiothérapie. Voilà.
Avec un risque de récidive toujours, ou pas spécialement?
Le risque de récidive, il peut arriver, mais il n'est pas systématique.
D'accord. C'est-à-dire que quand une personne est en phase de guérison, ou qui est guérie même, vous savez que la récidive peut arriver, et des fois pas du tout?
Non, normalement, à partir du moment où la personne a été traitée, qu'il n'y a plus de cellules cancéreuses, de traces d'activité cancéreuse, on va garder cette personne, entre guillemets, pendant 5 ans en surveillance, et on dira qu'elle est en rémission, et non pas en guérison.
Okay.
Au-delà des 5 ans, effectivement, on va parler de guérison.
Ok.
Et à partir du moment qu'il y a la guérison, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, entre guillemets, et de se dire, ça va recommencer. Là aussi, on en revient à l'importance et la difficulté pour le médecin de faire comprendre à la personne que, effectivement, le cancer est terminé, il est traité, et que la personne est guérie, et qu'il ne surpassera plus rien derrière par rapport à cela.
La guérison, elle passe aussi par l'entourage. On l'évoquait il y a quelques instants. Il est important, c'est le facteur peut-être même le plus important dans la guérison, l'entourage.
Peut-être pas le plus important, mais très important. De toute façon, l'entourage et l'état psychologique de la personne, surtout l'état psychologique de la personne, va être très important dans la prise en charge. C'est quelque chose qui est moteur, et forcément, quelqu'un qui va se laisser envahir par la maladie va avoir beaucoup plus de difficultés à être à lutter contre cette maladie. L'entourage, c'est un pilier qu'il faut prendre en compte et qu'il faut aussi soutenir. Parce que si, comme tout pilier, s'il n'y a pas des fois des aides, ça devient compliqué. Et effectivement, il nous faut avoir l'aide de tout le monde, et de la personne et de l'entourage.
Est-ce qu'on connaît le taux de guérison actuellement qu'il y a du cancer du sein?
Alors, je ne pourrais pas vous donner un taux de guérison comme ça, mais par contre, effectivement, on a un taux de survie à 5 ans qui actuellement est aux environs de 89%.
D'accord. qui est amené à évoluer aussi au fil du temps.
On peut toujours l'espérer.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Par rapport à il y a 10 ans, il y a une vraie évolution justement dans ce taux de guérison.
Toujours une évolution, oui. Mais c'est aussi grâce aux traitements qui s'améliorent aussi, hein, aux traitements qui se développent, mais et aussi grâce aussi de plus en plus, même si ça reste toujours insuffisant, grâce au dépistage, hein, qui forcément nous aide à prendre les gens en charge plus rapidement et donc forcément avoir, comme je le disais tout à l'heure, la possibilité d'agir tout de suite et aussi d'offrir un panel de lignes de traitement, si besoin, plus important.
Merci beaucoup, Cyril Rich. Merci à vous.
Mais je vous en prie, merci. Au revoir.
Voilà Bac FM, tout de suite c'est le retour du son pop rock. Je vous donne rendez-vous demain à 13h avec des nouveaux invités à l'occasion de la sortie du film Le Monde à l'envers, le dernier film de Nicolas Vanier. Je recevrai Nicolas Vanier et Gaspard Lacorne, un acteur du film. Ce sera demain à 13h.